Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
L'idée, c'était vraiment au départ une idée de bien-être animal, avec l'espoir de voir voler ces oiseaux-là qu'on ne voyait jamais voler en me disant ça va être formidable de voir voler et ils vont s'en sentir beaucoup mieux.
Je ne m'enfuis pas, je vole.
Ibis rouge, ara, spatule et vautour à tête rouge se partagent le territoire sans cage. Car c'est l'intérêt de cette volière, les oiseaux cohabitent ensemble sous un filet d'acier placé à 20 mètres du sol.
La curiosité est un vilain défaut.
Ces animaux-là, ils se font adouer l'écho des actions de protection que le bioparc mène dans la nature.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous adorez aller au zoo, mais vous avez quand même mal au cœur de voir ces animaux enfermés. Eh bien, vous allez adorer le bioparc de notre invité. Pierre Gué, vous dirigez ce bioparc de Douai-la-Fontaine, au sud d'Angers. C'est une grande histoire familiale, puisque c'est votre père qui l'a créé en 61. Déjà, on va parler du cadre avant de découvrir les animaux. C'est un lieu absolument unique.
Oui, c'est un lieu unique. En fait, papa, nous sommes à Véronnet de naissance, installés par hasard en Anjou. Et papa voulait rompre le cycle infernal de la Véronnet moyen, bistrot à Paris. Et donc, il avait envie d'un coin de nature pour lui au départ. Il a trouvé une carrière abandonnée. Ces carrières étaient exploitées pour des fours à chaud. On faisait cuire la chaux à l'intérieur. Ce sont des carrières de pierre tendre, très chaude. C'est une pierre chaude, jaune, pas blanche. Il est tombé complètement amoureux de cet endroit qui avait été abandonné une cinquantaine d'années depuis le départ des carriers pour la guerre de 14-18. Il y a installé quelques animaux et puis il s'est dit pourquoi pas le faire visiter au public. Il avait l'esprit très commerçant, papa.
Aujourd'hui, combien d'espèces animales, Pierre Gué, dans votre bioparc ?
Autour de 120 ou 130 espèces animales et un peu plus de 1000 animaux.
Ils viennent d'où, ces animaux ?
Alors, ces animaux, ils viennent d'autres parcs zoologiques. Depuis une trentaine d'années, on va dire, les zoos sont organisés par continent à la demande de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et les animaux naissent et sont échangés, sont mis en dépôt dans les zoos, parce qu'on nous demande toujours si on échange nos animaux. On les échange pas. Quand on a besoin d'un animal, on le demande, et puis en fonction des disponibilités, on nous l'envoie.
Comment on peut avoir besoin d'un animal? C'est-à-dire volonté des visiteurs de voir de nouveaux animaux?
Oui, alors
il y a les stars que demandent les visiteurs.
Ce qui est étonnant, oui, il y a des stars, mais ce qui est intéressant en France, c'est qu'il y a beaucoup de zoos privés, et ces zoos reflètent vraiment la personnalité de leur directeur. C'est intéressant parce que déjà on choisit l'endroit, comme on vient d'en parler, et puis aussi on choisit les animaux, et chaque parc zoologique a une personnalité différente. C'est assez intéressant. Ça m'a toujours surpris et intéressé, ça.
Alors, on vous a entendu dans la mise en onde d'André Facetta, notre réalisateur, parler du bien-être animal.
Oui.
Ça, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui?
C'est une préoccupation permanente, et vous savez que depuis quand la plupart des zoos sont apparus dans les années 60, à une époque où les animaux étaient faciles à trouver, on exploitait l'environnement à fond dans le monde entier, enfin, ça existe encore aujourd'hui, mais il y avait plus de matière, si je puis dire. Des tas d'animaux arrivaient chez les marchands, dans les valises des pays décolonisés, et puis ils finissaient bien souvent dans des ménageries, dans les parcs zoologiques, et on se posait moins la question à cette époque. C'était l'époque des ménageries. Mon père avait créé une ménagerie, une belle ménagerie, bien habillée, avec des beaux murs et un beau cadre, mais c'était malgré tout une ménagerie. Aujourd'hui, bien entendu, les gens sont plus sensibles au thème du bien-être animal. Et puis, nous avons des équipes dans nos parcs qui sont formées, des vétérinaires, des biologistes, des spécialistes du comportement animal.
Et puis, la loi a changé aussi.
Alors, la loi a changé. Il y a eu une première loi en 1976, la loi dans le cadre de la protection de la nature, qui a réglementé cette profession, je ne sais pas si vous dites, ou cette activité, ouais. Pardon. Et puis, une nouvelle loi en 2004 qui a réglementé nouveau, qui a donné un nouveau cadre et qui a mis l'accent sur l'aspect conservation des parcs zoologiques, en fait.
Alors, dans votre parc, dans votre bioparc, Pierre Gué, vous recréez des écosystèmes. C'est pourquoi? Déjà, c'est quoi un écosystème? C'est pour favoriser la reproduction, par exemple, des animaux?
Alors, on essaie, je sais pas si on reconstitue des écosystèmes. Moi, je dis plutôt, c'est très scientifique, un écosystème, c'est quelque chose qui fonctionne.
Ouais, je voulais faire ma frimeuse un peu, mais.
Oui. Non, mais c'est bien, vous avez raison. Mais non, on reconstitue des ambiances. Alors, ouais. Déjà, on est dans un endroit totalement isolé, c'est les plaines de l'Anjou, et c'est dans des carrières envahies de végétation, et ça a une sorte d'exubérance naturelle qui est très intéressante. On a cette chance dans des carrières de ne pas avoir de clôture visible. Il suffit d'avoir une clôture devant. Donc, il y a trois côtés qui sont éliminés. Et puis, en fonction de la végétation qu'on met devant. Et ça a été un vrai apprentissage, parce que quand je suis arrivé dans ce métier, ça n'existait pas. Les animaux, ils étaient. Une ménagerie, par définition, c'est un endroit où on montre la sauvagerie de l'animal. Ça doit être du béton, des grilles. L'animal est sauvage et il faut qu'en face, on mette en valeur la sagesse de l'homme. Donc c'était ça au départ, les mauvais zoos ou les ménageries de l'époque, si vous voulez.
Oui, mais en plus, la difficulté, j'imagine, si on agrandit, si on laisse plus de liberté aux animaux, c'est que les visiteurs font peut-être moins les voir. Or, la promesse d'un zoo, c'est quand même de venir voir les animaux.
Alors, c'est vraiment ce qui me gêne dans cette profession, parce que je connais vraiment beaucoup la nature. J'ai beaucoup voyagé sur tous les continents. J'ai visité des tas de forêts tropicales et d'autres milieux. Et mis à part l'Afrique de l'Est, les grandes savanes d'Afrique de l'Est où les animaux sont offerts sur un plateau et on voit des troupeaux immenses de toutes sortes d'animaux, dans le reste du monde, les animaux sont très difficiles à voir. Ils sont pas plus faciles à voir que chez nous, où on aperçoit quelquefois un renard, un blaireau, un chevreuil dans les phares d'une voiture. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est l'émotion qu'on ressent quand une chouette, je sais pas, vous voyez, il suffit pas que l'animal soit spectaculaire, c'est vraiment cette émotion. Et c'est ce que j'aimerais, et c'est ce qu'on essaie de reconstituer chez nous avec des tas d'artifices, comme on va en parler, comme l'immersion par exemple, qui permettent d'obtenir cette émotion. Pour moi, il faut éviter de montrer les animaux, de les montrer réellement comme ça.
Pour vraiment faire voyager, visiter ce bioparc à nos auditeurs, comment on imagine ça ? Les animaux sont en liberté, se côtoient les uns les autres, ou il y a quand même des prés carrés comme dans les zoos traditionnels ?
Alors, bien entendu, il y a des enclos, on ne peut pas faire autrement, mais j'ai la chance d'avoir plusieurs enfants, dont mon fils aîné qui est architecte paysagiste, et quand il est arrivé, il était imprégné de cet endroit et de notre métier, et je lui ai demandé de créer des ambiances, et il a créé des volières. Ces volières immenses, on les a créées au départ pour le bien-être des animaux, un peu pour le plaisir des visiteurs.
Mais pas que les oiseaux alors, les volières ?
Non, il y en a aussi pour d'autres animaux, on peut rentrer avec des okapis, les singes mélangés aux oiseaux. Mais ce qui est assez étonnant, ce qui nous a totalement surpris, c'est qu'au bout de quelques années, au bout de 2 ans, dans la grande volière sud-américaine qu'on a, on a eu l'émotion. En plus, et ça, on s'y attendait pas. On s'attendait. Moi, j'avais vraiment demandé ça à mon fils pour que les oiseaux puissent s'exprimer. Un oiseau, c'est fait pour voler, à part les autruches et les émeus. Si vous voulez. Donc, il fallait qu'ils volent, ces oiseaux. Et un jour, après la seconde saison, on a vu voler autour de nos plusieurs dizaines de perroquets, les araques, je sais pas, 150, je sais pas. C'était fabuleux. On a eu une émotion incroyable. Et on s'est dit, là, on tient quelque chose, il faut qu'on continue avec ça, que nos futures présentations s'inspirent de celle-ci.
Ces émotions, cette révolution, vous la racontez dans un livre, Une promesse de nature, du zoo au bioparc, aux éditions de Lachaud et Niestlé. Moi, j'ai envie qu'on ouvre le carnet rose, si vous voulez bien. Allez, des naissances, c'est pour tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Direction Douai-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire, à la découverte d'un bioparc fascinant. Vous avez commencé à le découvrir grâce à notre invité Pierre Gay, qui dirige ce bioparc, qui l'a créé, qui en a eu l'idée. 1000 animaux de 123 espèces différentes, c'est ça ?
123.
Je suis dans le 1000. Ouais. Est-ce qu'il y a des naissances ? Je disais, on va ouvrir le carnet rose.
Alors, il y a régulièrement des naissances. La dernière naissance importante que nous ayons eue, c'est un bébé hippopotame pygmée. C'est des animaux que les gens ne connaissaient pas, une espèce que les gens ne connaissaient pas il y a 20 ans et qui est élevée dans quelques zoos européens.
C'est
un hippopotame de 200 kilos et qui vit dans les forêts d'Afrique de l'Est. Les hippopotames amphibies vivent dans les savanes, dans les grands fleuves qui traversent l'Afrique, en groupe important, ce sont des groupes matriarcaux avec des mâles qui tournent autour, alors que ce petit hippopotame forestier, lui, comme beaucoup d'animaux forestiers, il est solitaire, il vit dans des mares, dans des petites rivières de forêt, et il est vraiment étonnant. Il ressemble à peu près à un hippopotame, sauf que c'est un hippopotame miniature. Plus petit, après on fait un porte-clé.
De 200 kilos quand même.
De 200 kilos.
Son nom, c'est Ziama.
Alors, ça s'appelle Ziama. Je crois que c'est le nom d'une rivière en Guinée, et on l'a appelé comme ça parce que depuis quelques années, on avait l'intention de soutenir un projet de conservation pour cette espèce. C'est des régions difficiles, la Guinée, le Libéria, évidemment, difficile de démarrer. Je suis en contact avec un copain depuis des années qui veut démarrer quelque chose. Il me fallait des sous pour le faire. J'ai cette occasion en début d'année. On a un important leg pour notre fondation. Et on démarre ce projet de conservation cette année à l'occasion de la naissance de Ziama. J'en suis très content.
Donc les bioparcs, ils sont là aussi, enfin les zoos modernes, ils sont là pour la conservation des espèces, c'est ce que vous nous dites?
Oui, ils sont là pour ça. Ça, c'est un peu mon dada. On a, à l'occasion des 40 ans du parc, il y a 15 ans, j'avais eu cette idée un peu farfelue de soutenir 40 projets parce que j'avais fait une rencontre un peu magnifique à Madagascar d'un jeune mec complètement passionné par la nature de son pays qui, sans moyens, essayait de sauver une forêt de 700 000 hectares. C'est beaucoup. Et donc, on est toujours bien resté à Madagascar, resté présent sur ce projet. Et pour les 40 ans du zoo, voilà, j'avais trouvé cette idée. Et donc, on a continué, bien sûr, à soutenir la plupart de ces projets.
Mais ça veut dire quoi, concrètement, soutenir un projet? C'est-à-dire qu'on recueille des animaux, on aide à prendre soin des animaux dans les pays?
Ça veut dire que chaque année, il faut trouver de l'argent pour soutenir des équipes locales. Surtout, ce qu'on a très vite compris, grâce à Madagascar, grâce à d'autres projets qu'on avait au Pérou et en Mongolie, c'est qu'on ne pouvait travailler qu'avec les locaux, qu'avec les gens du pays. Moi, je suis pas un scientifique. J'aime la science, je la respecte et j'essaie de m'en servir, mais j'ai pas une démarche scientifique. Moi, ma démarche, elle est faite. J'ai l'habitude de recevoir du public et d'avoir de l'empathie pour ces gens qui viennent chez moi, de prendre soin d'eux, et j'ai voulu faire la même chose et prendre les mêmes moyens pour travailler là-bas. Et en 2002, on a organisé un forum à Angers où on a fait venir des représentants de ces 40 projets. Il se trouve que tous ces gens nous parlaient de la même chose, de la difficulté des populations locales, des communautés locales à vivre au contact d'une nature difficile à appréhender, pour des tonnes de raisons. Pas forcément parce que la nature est dangereuse, mais parce qu'on leur prend le pétrole, les minerais, enfin des tas de choses. Et on a décidé de travailler, de prendre cet angle de travail, et ça a extrêmement bien marché, à tel point que maintenant, la plupart des parcs zoologiques qui soutiennent des projets les soutiennent au travers des communautés locales.
Alors Pierre, vous êtes vraiment un homme de la nature dans votre livre, Une promesse de nature, chez Delachaux et Niestlé. Vous racontez que quand vous vous promenez dans votre parc, dans votre bioparc, vous ne pouvez pas vous empêcher d'hurler le lémurien.
Oui, ça fait un bruit terrible.
Mais c'est pas grave.
Les lémuriens, ils ont des cris soit de communication, soit d'alarme, comme la plupart des primates. Donc les cris de communication, c'est des cris très discrets qui font... voilà, c'est comme ça. Et le cri d'alarme, ça commence tout doucement, parce qu'on commence... Alors ça, c'est formidable, parce qu'on a appris ça avec
mon père. On dirait un taco qui a du mal à démarrer.
Exactement, ça fait un peu ça. J'ai une vieille traction, c'est ça. Et donc, avec mon père, on a fait ça pendant des années à nos lémuriens, qui nous répondent tous les jours. Alors évidemment, ce qui est marrant, c'est que je suis le fils de mon père, que mon fils en fait autant. Mes petits-enfants, quand ils visitent le zoo au fond, et les lémuriens leur répondent, ils connaissent nos voix, ils répondent à ça. La première fois que je suis allé à Madagascar sur ce projet dont je vous parlais à l'instant, c'était dans une forêt. Les villageois, on les avait aidés à faire un barrage, pour améliorer l'ordinaire de la production de riz. Et ils étaient très embêtés parce que ils n'arrivaient pas à montrer les quelques familles de lémuriens qui restaient dans leur forêt protégée. Et je vous assure que c'est vrai, j'ai fait le lémurien, il y a 4 ou 5 familles qui ont répondu et qu'on a suivi depuis cette époque-là.
Ça ressemble à quoi un lémurien ?
Alors un lémurien, ça, c'est un primate, mais c'est pas un singe. C'est des singes un peu primitifs, ça ressemble plutôt à un gros chat avec un nez pointu et des oreilles rondes. C'est un très beau, très bel animal, c'est une fourrure extraordinaire, c'est très très beau. Et ils sont surtout très menacés dans la nature.
Ouais, et donc c'est important de les protéger dans votre bioparc ou alors à Madagascar et dans les pays en question. C'est cette double démarche qui est intéressante.
Alors il se trouve qu'on soutient cette fondation, on a créé cette fondation à Madagascar en 1998, qu'on protège une forêt et que dans cette forêt, l'espèce la plus emblématique, le plus gros lémurien de la région a disparu il y a 60 ans et que dans les semaines qui viennent, on va réintroduire des lémuriens dans cette forêt. Pour l'instant, pas des lémuriens nés en Europe, mais des lémuriens qui survivent dans des lambeaux de forêt alentour, qui vont être capturés par le groupe de spécialistes des primates de Madagascar, le groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar. Ils les suivent pour l'instant, ils vont les capturer et les réintroduire dans cette forêt de Farankaran qu'on protège depuis une quinzaine d'années.
Alors les égéries du parc, on peut dire que ce sont les girafes.
Ah oui, alors là, c'est... Oui.
Pourquoi ? Parce qu'elles sont nobles et qu'elles sont absolument magnifiques ? Parce que les visiteurs adorent les girafes ? Ouais. Parce qu'elles sont menacées ?
Alors en France, on a une relation particulière avec la girafe parce qu'on a Sophie.
Ah oui, ma sœur en a plein.
Donc la plupart des enfants, sinon tous les bébés français ont été élevés avec Sophie.
Et on croquait de la girafe, parce qu'on la mâchouille la girafe.
C'est du pur caoutchouc, donc il n'y a pas de problème. Donc on a cette relation particulière, il se trouve qu'on a eu des girafes qui étaient nées aux eaux de Vincennes, elles sont arrivées chez nous il y a une trentaine d'années, je sais plus, en 88 exactement, et que ce sont des animaux extraordinaires évidemment, c'était nos plus gros animaux à l'époque. Et quand on a décidé de soutenir ces projets, j'ai absolument voulu trouver un projet autour des girafes, et on m'a donné le nom d'un garçon au Niger, à Niamey. J'étais allé beaucoup en Afrique de l'Est, mais jamais en Afrique de l'Ouest. Et ce garçon, il était le survivant d'une association créée pour protéger le dernier troupeau de girafes d'Afrique de l'Ouest, 49 individus en 1996. Et cette association, elle avait une idée formidable, c'était de protéger les girafes en aidant les gens qui vivent à leur contact. C'est-à-dire que les girafes n'ont plus de prédateurs dans cette région, il n'y a plus de lions depuis très longtemps, le seul prédateur, ça pourrait être l'homme qui peut les empêcher de manger et les manger à son tour. Et donc l'idée de cette association, c'était d'aider ces gens qui vivent au contact. C'est la chose qu'on m'a dit en descendant de l'avion, si tu veux sauver tes girafes, il faut aider les bonhommes qui vivent avec. Et ça a été le début d'une très belle aventure. Malheureusement, je ne peux plus y aller réellement très souvent aujourd'hui, parce que le Niger est un pays dangereux. Mais j'ai vécu 10 années formidables à aller là-bas 3 ou 4 fois par an et à faire marcher cette association qui fonctionne toujours et qui a un énorme succès puisqu'aujourd'hui le nombre de girafes approche les 500 individus.
Et les girafes ont des cousins ?
Mais oui, les okapis.
Ouais.
C'est ça. Vous êtes fort.
Alors, vous en avez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, tiens, les okapis ?
Alors, l'okapi, c'est un animal très bizarre, découvert en 1902 dans la profondeur des forêts du Congo. On pensait qu'il y en avait très peu, mais en fait, il y a une dizaine d'années, on pense qu'il en restait finalement 40 000. Malheureusement, aujourd'hui, avec tous les problèmes de recherche de minerais, de déforestation de la région, leur nombre a dramatiquement baissé ces dernières années, sont sans doute moins de 10 000 aujourd'hui. Alors, c'est une girafe de forêt. La girafe, c'est le mammifère qui a le plus gros œil du règne animal, parce qu'elle vit dans la savane, elle a un très long cou, et c'est un périscope qui doit voir le danger venir. L'okapi, lui, vit en forêt, c'est très fermé, ses yeux ne lui servent pas grand-chose, donc il a des oreilles immenses, il a deux grands détecteurs, comme comme ça et qui sont en permanence mobiles et qui écoutent tout ce qui se passe pour savoir si un lion, un léopard arrive et pour être prévenu. Donc c'est plus petit qu'une girafe, ça a le dos un peu plus plat, c'est marron, un très joli brun roux qui est dû au soin. Quand on caresse le capi, on a les mains toutes de leur couleur, c'est marrant, le soin est très coloré. Et puis ils ont surtout les pattes rayées, les pattes avant, les pattes arrière rayées, les fesses rayées, c'est vraiment l'animal très très étrange et très attachant aussi.
Et dans un instant, on va s'approcher des panthères des neiges. Génial. Ça me fait rêver. Et un peu plus tard, on va voir voler des condors et des vautours. À toutes les curieux.
On vous a mis en boîte.
C'est un murien.
Tout ça parce que l'homme donne le nom des animaux, comme dirait Bob Dylan.
DJ Facetta.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
On voit vraiment chaque année des groupes sociaux s'organiser, choisir le site où ils vont nicher, se défendre, se battre, élever. Et vraiment, ça prend une autre dimension.
Regardez-les s'envoler, c'est beau.
RTL.
On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi fort quand un vol d'arabe passe au-dessus de la tête d'un visiteur ou quand les condors volent. Et c'est vrai qu'on oublie très vite le filet, la maille, pour ne voir que l'écosystème.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans la curiosité, on vous propose une immersion dans un gigantesque parc zoologique aménagé dans des carrières de pierres tendres où cohabitent des milliers d'animaux. Notre guide, c'est le patron du bioparc de Douai-la-Fontaine, Pierre Gay. Vous dites un mot que vous avez à la bouche, c'est le mot immersion. Ce mot résume à lui seul cette génération de parcs que vous avez voulu créer. Pourquoi c'est important ?
C'est important parce que je pense que ça suscite l'émotion. Je crois quand on est, on parlait des okapis à l'instant.
C'est pour les visiteurs évidemment,
oui,
l'immersion. Hein.
Et quand on s'attend à voir un okapi, on voit pas le filet, il est très haut et que d'un seul coup il y a un énorme oiseau bleu, ça s'appelle un touraco, ça vit dans la même forêt que l'okapi, qui se pose à côté de vous parce qu'il a pas peur des visiteurs, ou qu'un singe, un singe âné de hibou qui vit aussi dans la même forêt que l'okapi au Congo.
Un singe âné de hibou.
Un singe âné de hibou. Oui,
il a un nez de hibou. C'est
alors,
ça, j'ai bien entendu.
Blanc, il a le visage très sombre avec un trait blanc comme ça.
D'accord. Ouais.
Et on a un groupe de ces animaux avec les okapis. Bah c'est une émotion incroyable pour un enfant. Moi c'est vraiment ce que cherche. C'est vraiment ce que je vis quand je vais dans la nature et ce que je veux retrouver chez moi.
Vous inspirez d'autres zoos, j'imagine, un peu partout en
Alors,
France et dans le monde.
Quand j'étais plus jeune, avec mon père, on a fait 3 tours de zoo. On a pris 3 semaines de vacances pour voir les zoos anglais, les zoos hollandais et les zoos suisses. Et ça a été la leçon de notre vie. Je crois que c'est tout ça nous a inspiré. On est vraiment très inspiré par notre site. C'est vraiment un site qui nous a emmené très loin. Et puis on voyage beaucoup. Papa voyage beaucoup, je voyage beaucoup. Mais mes enfants aussi. On adore la nature et on essaie de retrouver chez nous, encore une fois, ces sensations qu'on a quand on est dans la nature.
Est-ce que vous observez des changements de comportement des animaux quand ils sont dans un bioparc comme le vôtre ou dans un zoo classique ?
Non, alors je ne parlerai pas de parc ou de zoo, je parlerai plutôt d'enclos traditionnels ou non. Bien sûr que les comportements évoluent très vite, ça évolue très très vite puisque d'abord les animaux ont des structures sociales différentes et si vous arrivez à reconstituer des groupes sociaux, vous allez évidemment obtenir des comportements différents et puis aussi des interactions entre espèces quand par hasard ou que si vous mélangez plusieurs espèces, c'est très intéressant évidemment, ça s'appelle de l'enrichissement. C'est ce qu'on essaie d'encourager dans des cages, enclos traditionnels en rajoutant des morceaux de bois, des pierres, en cachant la nourriture pour que les animaux s'ennuient moins, mais on peut l'obtenir aussi en donnant plus de liberté et en donnant plus de possibilités à ces espèces d'exprimer leur comportement naturel.
Alors justement, ces maquis kata
qui ne sont pas des sushis et que Thomas ne mange donc pas, sont
des... C'est quoi comme animal d'ailleurs ?
Le maquis kata, nous n'en avons pas de la fontaine, c'est un lémurien qui vit dans le sud de Madagascar, dans les forêts de cactus et qui se nourrit de figues sauvages. La plupart de ces lémuriens, ils ont tous des dents extrêmement acérées parce que comme ils mangent ces figues avec la carapace très dure, ils doivent être capables de les ouvrir d'un seul coup de dent comme ça. Et donc ces maquis qui ont l'air très très gentils, il faut surtout pas leur mettre la main sur le dos parce qu'ils ont une morsure extrêmement dangereuse.
Alors je sais pas si c'est dans votre livre, mais ils se sont mis à la baston, ces maquis kata. C'est quand on les a sortis de certains enclos, c'est ça ?
Oui, alors ça c'est au début de ma carrière zoologique. Papa avait ces maquis dans une petite volière. On leur a fait une île où ils ont pu exprimer leur comportement. Et dans la nature, ce sont des groupes fusion-fission, ça veut dire que dans la journée on s'écarte, les femelles partent avec leur bébé d'un côté, les mâles de l'autre et la nuit on se rassemble pour diminuer le danger, plus on est nombreux moins on a de chances d'être mangé.
Et on se tape dessus, non ?
Alors non, mais dans un enclos, une une île, même si ouais. c'est grand, ça reste un enclos. Si les animaux ne peuvent pas exprimer ce comportement de séparation quand il faut, bah évidemment, ils se poussent et ils vont se donner des coups dedans. Donc, quelquefois, les travaux de couture à faire, les vétérinaires de zoo connaissent bien ce travail.
C'est un souvenir que vous racontez dans votre livre Une promesse de nature que vous publiez, Pierre Gay, chez Delachaux et Nicelet. Mmh.
Est-ce qu'un fauve qui est né dans une cage en captivité, est-ce qu'il peut réapprendre à chasser si on lui donne de l'espace et si on lui crée les conditions pour
Alors,
le faire?
Alors, ça, j'y croyais pas parce que j'y croyais pas comme tout le monde. Et puis, il y a une trentaine d'années, la direction des services vétérinaires de Charente nous a donné un lion saisi dans un cirque qui était totalement abruti. C'est pas de sa faute. Il avait un an et demi ou deux ans. Il avait passé sa vie dans une cage de 2 mètres sur 2 ou 2 mètres sur 3 et il semblait vraiment un pauvre lion, quoi. Et au bout de quelques mois, il a commencé à se comporter de façon plus naturelle. Ils ont un enclos qui fait 2 ou 3 000 mètres carrés, c'est pas immense, mais on l'a vu commencer à chasser les pigeons. Et aujourd'hui, alors je parle pas de ce lion, il est mort pour brevet, mais les fauves qu'on a chez nous, tous ces carnivores, on chasse tous. Et alors ça participe de l'émotion dont je vous parlais tout à l'heure. Il arrive très souvent que des visiteurs font des photos du tigre qui saute en l'air et qui capture un pigeon à 5 ou 6 mètres. Et ils sont arrivés à ce moment-là et c'est fabuleux. Moi, je suis persuadé qu'on ne peut pas réintroduire. On dit souvent qu'on ne peut pas introduire de grands carnivores dans la nature. On pense qu'on ne peut pas les réintroduire parce qu'ils seront incapables de chasser.
Oui, ils sont capables de chasser. Ils ne pourront pas se défendre, c'est ce qu'on
dit. Ce sont des félins. Le plus grand danger de ces animaux qu'on voudrait réintroduire, c'est qu'ils n'ont pas peur de l'homme. Un animal dangereux comme ça doit avoir peur de l'homme, sinon il le croque, parce qu'on nous sommes une proie facile à manger. Quand en plus, dans des parcs zoologiques, on les considère comme des bonnes bêtes bien douces, évidemment, ils ont encore moins peur de nous.
Mais alors, l'immersion dont vous parlez, elle ne marche pas pour les fauves.
Non,
et bien sûr. Vous allez jusqu'où dans l'immersion?
Non, on a l'intention de construire dans quelques années un grand enclos, une grande volière indonésienne, d'où on apercevra les tigres de Sumatra, Indonésie, et les léopards de Java, mais ils seront derrière les vitres, bien entendu. On peut pas se permettre de se promener parmi des lions.
Enfin, quand même, grâce à vous, on est en sécurité avec vous, Pierre Gay. On va approcher des panthères des neiges. Vous avez été, je crois, au bioparc, les premiers à les présenter en France. Oui. À toutes les curieuses.
Vous écoutez RTL.
On a encore plein de choses à vous raconter, à vous faire découvrir dans les allées du bioparc de Douai, la fontaine, grâce à son directeur qui sait imiter. Le cri.
Non, il parle avec le lémurien.
Voilà, il parle avec le lémurien.
Je communique.
Voilà, il communique. Et aussi avec les auditeurs d'RTL. Vous pouvez nous appeler au 3210 sur RTL.fr ou sur Twitter avec le mot dièse La Curiosité RTL, même s'il ne reste que 8 minutes. Il y a Hervé qui nous appelle de Vendée. Quelle est la différence entre un zoo et un parc à l'image de Planète Sauvage dans la Loire-Atlantique? 80 hectares de nature.
Alors, Planète Sauvage, c'est un parc qui a été créé à l'époque où c'était la mode de créer des safaris où on se promenait en voiture. Il y en a eu quelques-uns créés en France, 4 ou 5, je sais plus. Planète Sauvage, c'est un parc qui a été créé à cette époque. À une époque, on avait envie de se promener pour un peu reconstituer l'ambiance des safaris africains. Évidemment, dans un safari africain, il y a déjà quelques minibus, mais pas trop. C'est plus compliqué, évidemment, quand il s'agit chez nous de faire entrer plusieurs milliers de personnes sur des routes dans un enclos.
Donc c'est un système qui est
sympa
mais un peu dépassé, quoi, on va dire.
Je sais pas, mais en général il compense par une partie zoo et puis c'est un parc qui fait partie de l'association des Européens qui est tout à fait.
C'est bien. Vous avez une histoire perso avec RTL, des souvenirs d'enfance ici. Vous pouvez nous les raconter puis après on retourne dans votre bioparc.
J'ai des souvenirs d'enfance parce que je vous l'ai dit, nous sommes d'origine aveyronnaise et il y a un bistrot en face RTL qui s'appelle Chez Savi.
Notre cantine.
Qui a été créé par mon tonton et j'ai passé des bonnes soirées quand j'étais enfant puis ma mère aussi y passait ces hivers.
Et Savi, c'est le nom de qui alors?
C'est le nom de famille de maman. Donc je m'appelle Gay Savi, en fait, oui. Et les Aveyronnais sont très attachés à leurs racines. Moi particulièrement, l'Aveyron, c'est voilà, ça me parle beaucoup et ça m'a fait vraiment un petit coup au cœur tout à l'heure de passer. D'ailleurs, je vais y aller en sortant.
Et vous veniez
alors, je venais au grand studio, oui, bien sûr, oui, c'était marrant. Ouais. Et puis on passait des soirées avec des tas de gens, des artistes et tout, chez Tonton, c'était sympa.
Alors on quitte Chez Savi pour retourner aussi d'Angers à Douai-la-Fontaine, dans votre bioparc, à la découverte des fameuses panthères des neiges. Ouais. On peut en voir. C'est des panthères que vous avez été les premiers avec votre père à présenter en France.
Oui, je vous ai dit qu'on avait fait le tour des eaux d'Europe il y a 35 ans. Et alors, dans un de ces parcs, je ne sais plus, c'est Zurich, on nous a dit, mais pourquoi vous ne voudriez pas des panthères en Angleterre, je crois. Vous ne voulez pas des panthères des neiges, ça serait bien chez vous, vous avez la roche et tout. Donc on a été les premiers à recevoir ces panthères. C'est vraiment l'animal qui m'a étonné, surpris. C'est un animal très discret, peureux. C'est pas un léopard.
Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à un léopard, si vous voulez. Mais c'est un animal qui doit se cacher en permanence. Il vit dans la caillasse. Il y a du mimétisme avec sa robe grise parce qu'il vit dans les cailloux, pas dans la neige, en fait. Il est capable de supporter la neige, mais il vit dans des roches grises. Et ça m'a tellement étonné qu'en 1986, l'année suivante, j'ai décidé d'aller en Inde les voir avec une personne qui s'appelait Hélène Freeman, qui avait créé une association pour les protéger dans la nature. C'était un voyage fondateur pour moi parce que c'était la première personne qui m'a dit qu'on ne pouvait préserver, sauver une espèce menacée qu'en travaillant avec les communautés locales. Et depuis cette époque, depuis 30 ans, on travaille avec le Snow Leopard Trust et on a un village en Mongolie où je vais aller pour la première fois en septembre prochain et qu'on aide à vivre. On paie des formations, des enclos pour les animaux, la dialyse d'une gamine. Enfin voilà, on aide le bioparc qui est vraiment partenaire de ce village depuis 30 ans.
Est-ce que ça veut dire, Pierre Gué, que les panthères des neiges, elles sont rares aujourd'hui à l'état sauvage ? On les trouve en Mongolie ?
On les trouve sur tout le pourtour de l'Himalaya. Ouais. Elles sont un peu plus nombreuses qu'on le pensait, quelques milliers d'individus, sans doute autour de 4000 individus. Mais cette association a fait vraiment un travail énorme et dans chacun des pays où vivent ces animaux, il y a du travail qui se fait avec les populations. C'est un animal qui n'a jamais été photographié dans la nature jusqu'à 10 ans, je crois. Parce que c'était impossible à voir. C'est des animaux qui se voyaient à des kilomètres. Donc voilà, les premières photos ont été faites il y a 10-15 ans, les premiers films il y a quelques années grâce aux caméras pièges. C'est vraiment étonnant.
Et on peut les découvrir dans votre bioparc.
Oui,
et surtout. Elles sont dans un grand canyon,
alors,
c'est ça?
Alors non, elles sont pour l'instant dans un enclos de roche, mais ouais. Pour l'an prochain, mon fils leur prépare un enclos magnifique où elles seront mises en contact, enfin, en face, leur visage. Vie des marcors qui sont des bouquetins de l'Himalaya qui sont leur proie naturelle.
Il y avait
un très beau film qui racontait l'histoire du magazine Life et notamment la difficulté du passage à l'ère numérique pour le magazine Life avec
le fabuleux dessin de Walter Mitty, c'est ça ?
Exactement, et le personnage interprété par Sean Penn qui joue un grand photographe qui voulait photographier un léopard des neiges.
Ah oui, c'est vrai.
Et l'une des scènes du film, c'est le moment où il l'a dans son viseur. Et il décide de pas la photographier. Ah, il a juste eu le plaisir de la voir.
Il lui rend sa liberté.
C'est vraiment ce dont je veux. Mais ça, c'est inspiré de Peter Jackson, qui a été vraiment un des premiers à les étudier et à les photographier dans la nature.
Alors, on va passer aux oiseaux, parce qu'on a promis ces oiseaux en liberté. C'est des oiseaux dans des volières, c'est des vautours et des condors, notamment, qu'on peut admirer.
Alors, on a deux carrières, une pour des vautours, deux carrières très différentes. La première pour les vautours, on l'a créée avec mon père il y a 40 ans. Ce sont des vautours qu'on a récupérés blessés. Qu'on récupère toujours blessés dans la nature, on en récupère encore deux le mois prochain, et ces vautours ne peuvent pas voler, ils ont eu des ailes cassées, un coup de fusil pris dans des ronces, enfin peu importe, on les récupère, on les fait se reproduire à De La Fontaine, et depuis 33 ans, on les relâche dans la nature chaque année. On en a relâché dans les Cévennes, dans les Alpes, et maintenant en Bulgarie, et on soutient une ONG en Bulgarie avec qui on travaille, et hier, je crois, ou avant-hier, un de nos vautours né à Douai l'an dernier a été relâché en Bulgarie.
C'est mignon un bébé vautour ?
Oui, c'est mignon. Ouais, oui, c'est comme tous les poussins, c'est sympa, oui. Donc encore une fois, il y a cette fosse, ça s'appelle la fosse aux charognards, où ces vautours n'ont pas besoin de filet puisqu'ils ne volent pas de toute façon. Et puis on a une grande volière qui fait 1 hectare où on a des condors, parce que dans cette volière on s'est focalisé sur la faune des Andes, et donc on a 35 espèces qui viennent tous des Andes, parce que on a créé 2 réserves dans les Andes il y a une vingtaine d'années, et qu'on s'efforce de... Évidemment, il faut que nos visiteurs le sachent. Et donc, on s'efforce de choisir des animaux, des espèces qui vivent dans ces réserves qu'on a créées au Pérou.
Vous savez à quoi ça ressemble, un condor?
Justement, j'allais poser la question. C'est grand.
Un vautour, on voit à peu près.
Un condor des Andes, c'est plus gros qu'un vautour. Ça peut peser jusqu'à 15 kilos. Ça fait entre 11 et 13 kilos en moyenne.
Une grande envergure.
C'est le plus gros oiseau volant, puisque l'albatros fait à peu près la même envergure. Mais l'albatros, c'est vraiment un planeur avec des ailes très fines. Mm-hmm. Le condor, 3,30 m les plus grands, c'est vraiment très impressionnant. On en voit souvent au Pérou, en Argentine, au Chili aussi. Et c'est une espèce menacée dans la nature. On estime leur population à moins de 2000 individus. C'est vraiment très peu. Je pense que nous avons la seule volière au monde où des condors puissent voler.
Et vous réunissez des espèces aussi qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer dans la nature, ou ça c'est absolument interdit?
Alors non.
Question de novice.
Non. L'idée, c'est vraiment d'évoquer les milieux naturels, bien sûr. Donc là, cette carrière que mon fils a créée, c'est vraiment un dédale de roches. Ça fait une dizaine de mètres de profondeur. Et toutes ces espèces-là se côtoient dans la nature, bien entendu. Il y a des manchots de Humboldt, des manchots des côtes du Pérou. Et les condors vivent sur les côtes du Pérou parce qu'ils vont se nourrir des cadavres de baleines ou d'otaries sur les côtes du Pérou. Des ibis, des Andes, enfin voilà.
Est-ce qu'il y a des acclimatations qui marchent pas? Est-ce que ça vous est arrivé?
Alors, je peux vous donner un exemple très simple. Dans cette grande volière, j'ai voulu mettre des chouettes déterriées. La chouette déterriée, c'est une chevêche américaine qui creuse dans le sol intérieur dans lequel elle élève plusieurs poussins. Et alors, c'est fabuleux. Quand on se promène en Patagonie ou dans les Andes, on voit ces groupes de chouettes. 8, voilà, je les ai mis dans cette volière. Il se trouve qu'elles ont tout de suite adopté un terrier. Et on a des perroquets qui sont intelligents. Le perroquet, lui, il s'est dit, si la chouette y va, c'est que c'est bon. Donc il a commencé à en sortir une par une aile en lui cassant l'aile, la deuxième par une patte en lui cassant une patte, et un poussin et deux et trois. Et on a dû arrêter de présenter ces chouettes parce que les perroquets absolument voulu leur voler leur nid. Donc ça n'a pas marché.
Les perroquets comme des coucous.
Exactement, un peu, pour voler le nid en particulier.
Ce bioparc, on peut le visiter toute l'année ?
Non, il est fermé l'hiver. Nous aurons des vacances de février aux vacances de la Toussaint. C'est le cas de la plupart des parcs zoologiques aujourd'hui, parce que hors saison, les gens ne sortent pas beaucoup. Enfin, nous sommes à la campagne.
Tout de même, et c'est ouvert tous les jours.
Et c'est ouvert tous les jours le reste de l'année. Oui.
Merci, c'est un bonheur de vous avoir au micro de la curiosité. Et puis vous publiez une promesse de nature du zoo au bioparc. C'est une révolution. Et c'est publié chez Delachaux et Nisley.
Vous écoutez RTL.